Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa dernière émission de la saison, puisqu'après au mois de juillet, août, on est en pause estivale. Et on reprendra, j'avais noté ça, le mardi 12 septembre en direct sur l'antenne de Principes Actifs. Bon, une heure pour parler de nos actions et de nos mobilisations pour la défense et la promotion des droits humains. Mais ça, je pense que vous le savez, parce que ça fait quelques années qu'on fait ça sur l'antenne de Principes Actifs. Restez avec nous jusqu'à 8h, on a plein de sujets ce soir. Et dont vous allez découvrir le menu par la suite. Voilà. Donc, pour entamer cette dernière émission, on va parler de la France. Ça fait, comme on a eu l'occasion de vous le dire dans nos précédentes émissions, on a constaté, nous, que depuis 2 ou 3 ans, ou un peu plus, on parle de plus en plus souvent dans nos émissions d'atteinte aux droits fondamentaux en France. Et c'est une pente inquiétante qui est prise. Et donc, nous, on continue à être vigilants et à œuvrer contre, effectivement, les restrictions aux libertés fondamentales. Je pense au droit de manifester, mais pas que. Il y a une grande campagne d'amnistie par rapport à ce droit en ce moment. Mais là, c'est Edith qui va vous parler. Et puis, j'ai oublié de vous présenter, mesdames.
On n'a plus le droit de parler.
C'est
Nina.
Ça. J'ai oublié, partie sur balancée.
Bonsoir, les auditeurs.
Donc, alors,
on est là.
Au micro.
Edith, ça va? Ça va, toi, Mina?
Bien.
Didier, il parle beaucoup. Hein.
Non, tu crois?
Avec moi au micro, je vais arriver à le dire. Il y a donc Mina et Edith.
Bonsoir. Voilà.
Oui. Bonsoir.
Et donc, pour là, on va vous parler d'une actualité très récente. Hein, vous en avez forcément entendu parler. C'est la dissolution. Du soulèvement de la Terre, du mouvement écologiste décidé par le gouvernement du mouvement écologiste et soulèvement de la Terre. Et c'est Edith qui va vous parler, mais avant de vous en parler,
voilà.
On va vous passer un petit audio très court, ça dure 1 minute, de la prise de position qui a été faite par Amnesty France. Voilà, et Edith enchaînera juste après. Merde.
Le mouvement écologiste et soulèvement de la Terre a été dissous le 21 juin par le gouvernement français. Nous condamnons cette décision, qui est extrêmement problématique. Pourquoi ? Cette dissolution illustre tristement la dangereuse restriction de l'espace dévolu à la société civile en France. Elle illustre également une tendance très alarmante visant à entraver l'action des associations qui se battent pour les droits humains, qui se battent pour l'environnement, qui se battent pour le climat, une activité essentielle pour la préservation des droits et des libertés. Que ce soit à travers l'adoption de lois comme la loi séparatisme ou à travers un discours qui vient stigmatiser celles et ceux qui se mobilisent pour les droits humains et pour le climat, le gouvernement français vient fragiliser la liberté d'association. Au lieu de réprimer les organisations qui se mobilisent pour les droits et pour le climat, le gouvernement devrait garantir, protéger le droit à la liberté d'association et rendre le cadre législatif français conforme au droit international. Nous resterons extrêmement vigilants face à la suite de cette affaire et face à toutes les éventuelles entraves aux libertés associatives en France.
Voilà, donc c'était la prise de position d'Amnesty. Et Edith va compléter effectivement cette information.
Oui, parce que c'est vrai que j'avais pas pu écouter la petite parole de Katia Roux. Moi, je suis sur le papier. Et effectivement, quand j'ai entendu parler, effectivement, je crois que c'est en mars qu'il y a eu, après les événements de Sainte-Soline, dont on a parlé à la radio, notre premier ministre, notre ministre de l'Intérieur, Darmanin, premier ministre, et oui, on va pas dire ça, qui menaçait de dissoudre les soulèvements de la Terre. Et là, on a appris le 21 juin dernier que cela a été fait en Conseil des ministres. Donc, ce que peut dire Amnesty par rapport à ça, c'est que cela présente des risques, enfin, qu'il y a un rappel de droit qui s'impose. Et moi, je ne savais pas, effectivement, par rapport à ça. Donc, des droits internationaux qui ont été ratifiés par la France. Donc le droit à la liberté d'association est notamment protégé par l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et ainsi que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, deux textes signés et ratifiés par la France. Donc là, ces articles-là s'imposent à la France, même si ce sont des articles européens, parce qu'elle les a ratifiés. Et donc, une dissolution semblerait contraire au droit international. Parce que la dissolution d'une organisation est l'une des restrictions les plus sévères du droit à la liberté d'association. Cette mesure ne peut être justifiée que dans des cas très limités. Par exemple, en vertu du droit européen relatif aux droits humains, la dissolution se justifie s'il existe un lien étroit et direct entre une organisation et un acte criminel, ou si l'organisation mène des activités qui constituent une atteinte imminente aux droits d'autrui, ou qui rejettent fondamentalement des institutions démocratiques et l'état de droit. Donc, dissoudre une association ne devrait être qu'une mesure de dernier recours, pris en cas de danger imminent, résultant d'une violation flagrante de la loi, et ne devrait être ordonnée que par un tribunal. Mais malheureusement, en France, le droit français pose problème car le droit français actuel relatif à la dissolution des organisations ne prend pas cette clause en compte et il autorise le gouvernement à dissoudre une organisation pour des motifs vagues et sans contrôle préalable de la justice. Et effectivement, là, ces motifs, par rapport à ce que je vous ai dit, bon, on n'en est pas du tout à ça par rapport au mouvement Les Soulèvements de la Terre, qui ont été dans le collimateur du gouvernement à Sainte-Soline. Mais la situation à Sainte-Soline a été effectivement très, très discutable par rapport à l'intervention des forces de l'ordre. Et ce que disait Katia Rousse, c'est aussi ce qui est soucieux, c'est-à-dire de sentir que le gouvernement est en train de prendre dans le collimateur tout ce qui est mouvement de défense au niveau du climat. Et elle, je vous donne une explication parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne m'étais pas rappelé. Quand elle parle déjà de la loi dite séparatiste adoptée en 2021, là, cette loi, elle a été utilisée pour tenter de sanctionner le mouvement Alternatiba, un mouvement qu'on connaît bien à Évreux, pour un atelier sur la désobéissance civile. Et Amnesty note que par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques là, de 2024, il y a des dispositions de la loi qui sont en train de viser à empêcher des actions de désobéissance civile là aussi. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement si on veut traduire? C'est criminaliser les militants et les militantes écologiques, qualifier ces organisations d'éco-terrorisme ou tenir des discours stigmatisants à leur encontre contribue à délégitimer leur cause pourtant essentielle. Voilà, là, c'est ce que dit Katia Roux que vous venez d'entendre. Donc, c'est une info qui personnellement me soucie énormément et j'ai envie de bouger. Et ça tombe bien, à Évreux, ce mercredi, si vous êtes d'accord, si vous en avez envie de manifester votre désaccord par rapport à ça, devant la préfecture, à 18h, il y a une manifestation.
Tout à fait, et les militants de... Les militants d'Amnesty International Évreux, j'ai visité parce que je ne m'entendais plus dans mon casque, les militants d'Amnesty International Évreux participeront à cette manifestation comme...
Il y a bien d'autres organisations.
Et de citoyens. Voilà. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, il y a Télérama, un journal que vous connaissez tous forcément, un hebdomadaire qui a publié aujourd'hui un article justement sur le même sujet et qui est une interview d'un ethnologue qui s'appelle Philippe Descola, et un ethnologue qui fait partie d'ailleurs du mouvement du soulèvement de la Terre.
Oui, et rappelez, je crois qu'il faut rappeler, comme tu le disais juste avant l'émission, que les soulèvements de la Terre, c'est un collectif d'associations.
Tout à fait.
Voilà, c'est pas
tout à fait. C'est pas un mouvement unique. Donc dissoudre un collectif, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de statut en tant que tel, ni de bureau élu, ni rien de tout ça. Et parmi les gens qui font partie du collectif, il y a par exemple des sections de la Confédération paysanne, qui est un syndicat agricole. Voilà, c'est juste pour situer les choses. Et donc dans le préambule de l'article, il est dit que cette dissolution est une nouvelle preuve de la criminalisation des défenseurs de la planète. Et c'est donc ce qu'affirme Philippe Descola, qui affirme aussi, puis je m'arrêterai là un peu plus loin.
Oui, parce que c'est ce que je viens de dire.
Oui.
Oui.
qui dit que parler, non mais c'est pour dire qu'effectivement c'est repris dans beaucoup de médias, que parler d'éco-terrorisme est surtout une façon pour le pouvoir et les grandes firmes de détourner l'attention.
C'est voilà. Vrai que Didier est très silencieux.
De détourner l'attention et aussi de faire monter la pression dans ces mouvements-là, parce que l'urgence climatique, l'urgence écologique, elle existe et les gens vont être un peu exacerbés. Et malheureusement, on voit très bien ce que peut chercher aussi le gouvernement par rapport à ça.
Oui.
Alors que manifester est un droit.
Et puis, dernière petite info, si vous me permettez, mesdames, par rapport à ça.
Non, mais c'est vrai que t'es silencieux, on va te permettre.
Que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'en fait, un des arguments officiels pour dissoudre ce mouvement, c'était parce que certains de ces militants étaient intervenus et avaient, entre guillemets, fait des dégradations dans une usine, une cimenterie appartenant au groupe Lafarge. Lequel groupe Lafarge est actuellement en justice, parce qu'en fait, il y a eu des preuves qui ont établi qu'il avait vendu en...
Il a payé voilà. des causes. Enfin,
pour sauvegarder une usine similaire en Syrie, il a payé, il a donné de l'argent à Daesh, organisation terroriste bien connue. Voilà, c'était juste pour signaler qu'on est tombé sur la tête quand même.
Voilà, donc on va suivre les...
Voilà. Et donc, on rappelle que la manifestation, c'est, on en reparlera à la fin, mais c'est demain, donc demain mercredi, à 18h, devant la préfecture. Rejoignez-nous, c'est important. Sans transition, je crois que c'est Mina qui voulait vous parler de bonnes nouvelles parce que.
Je suis pas sûre.
Bah si.
T'es sûr, c'est moi?
Ah, c'est, je suis sûr que c'est toi, c'est ce qu'on avait décidé tout à l'heure.
Des bonnes nouvelles après.
Des bonnes nouvelles et après encore des actualités urgentes. Alors, je suis allée sur le site Amnesty Belgique et les bonnes nouvelles de l'année 2023. Ça commence comme ça. Peine de mort abolie en Zambie. La Zambie l'a annoncé fin décembre par la voix de son président, Hakainde Hichilema, la promulgation d'une loi abolissant la peine de mort ainsi que la législation pénale sur la diffamation à l'encontre du président. La Zambie est devenue le 25e pays d'Afrique subsaharienne à abolir la peine capitale pour tous les crimes. Au Mexique, création d'un bureau du procureur spécialisé dans les féminicides. La création récente du bureau du procureur spécialisé dans les féminicides à San Luis Potosí est une victoire pour les familles des victimes de féminicides. Grâce à leur ténacité et à leur organisation, elles ont obtenu ce grand succès dans leur lutte ardue pour l'accès à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale pour elles et pour toutes les femmes victimes de féminicides dans cet État. En Finlande, une nouvelle loi sur la reconnaissance du genre. Cette nouvelle loi supprime l'obligation pour les personnes, écoutez bien, transgenres, d'être stérilisées et d'établir un diagnostic psychiatrique en vue d'obtenir la reconnaissance juridique de leur genre. Donc avant,
oui.
Voilà. République démocratique du Congo. Libération d'un activiste de la Lucha. L'heureuse libération d'Elias Bizimungu a été annoncée fin mai. Malheureusement, King Mwamizio est toujours privé de liberté. Tous deux sont membres du mouvement citoyen Lucha et arrêtés sur la base de charges forgées de toutes pièces pour avoir exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, après avoir critiqué les autorités militaires et policières dans la province du Nord Kivu. En Turquie, acquittement et libération de 4 défenseurs, défenseuses des droits humains. Libération et suppression des condamnations de Taner Kilis, président honoraire d'Amnesty Turquie, Idil Ezer, ancienne directrice d'Amnesty Turquie, Özlem Dalkiran et Gunal Kursun, 4 des 11 défenseurs des droits humains condamnés dans le cadre de l'affaire de Bouyoukada en juillet 2020. Cet acquittement intervient 6 ans exactement après la première arrestation de Taner Kilis, qui avait été suivie de l'arrestation de ses collègues quelques semaines plus tard. En Belgique, libération d'Olivier Van de Castel. Ça, on est déjà au courant, mais je vais vous le redire. Arrêté en Iran le 20... Oui, on en a parlé en début d'année.
Oui, mais t'es sur le site belge, donc ils sont super contents.
Oui, il faut une rétrospective.
Ils se sont beaucoup mobilisés pour lui, donc c'est normal.
Arrêté en Iran le 24 février 2022, il y a été détenu arbitrairement par les autorités iraniennes. Il a été victime de torture et a été détenu dans une cellule d'isolement pendant de longues périodes. Le lieu exact de sa détention est resté longtemps secret. Olivier n'aurait jamais dû être détenu. Grâce à notre action commune, il a retrouvé sa famille et ses amis en Belgique, là où il doit être. Et pour finir, en Estonie, la légalisation du mariage pour les personnes du même genre. L'Estonie a annoncé le 21 juin dernier la légalisation du mariage pour les personnes du même genre. L'Estonie devient le premier pays balte à légaliser le mariage pour toutes et tous. Ensemble, continuons de nous battre pour plus de victoires.
C'est un tour rapide du monde, mais avec des bonnes nouvelles, ça fait plaisir, Mina.
C'est ça.
C'est ça.
Et maintenant, Edith, voilà, c'est à toi.
Moi, après, on a une information qui est moins drôle à vous donner.
Voilà, mais c'est une information que Claire-Lise nous a fait parvenir hier soir et que nous ne connaissions pas. Donc, c'est un communiqué de presse qui émane d'Utopia 56 et via ou avec Réseau Éducation Sans Frontières. Et ce sont des mineurs au Palais Royal. Donc, on se regarde tous les trois, on se dit, mais on n'en a pas entendu parler sur les médias. Et donc, on a vraiment envie de vous faire part de cette information-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est à Paris. À Paris, la police disperse violemment les 450 mineurs en recours installés devant le Palais Royal depuis le 20 juin. On peut imaginer que ça avait à peu près le même bruit que ça.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc, et le communiqué, je vous le lis carrément parce que je trouve que, bon, même les mouvements d'humeur sont intéressants. Donc, une fête de la musique façon Borne d'Armanin pour les rescapés des naufrages en Méditerranée. Le 20 juin, après 77 jours d'occupation pacifique de l'école désaffectée de la rue Erlanger, dans le Paris 16e, 450 mineurs étrangers isolés, avec les associations Utopia 56, Timmy, les Midi du MIE et Tara, ont installé leur tente place du Palais Royal. Il s'agit de mineurs en recours pour la reconnaissance de leur minorité, principalement auprès des tribunaux de Paris et de Bobigny. Ils ont été rejoints par d'autres jeunes espérant une issue favorable à leur situation d'attente et de galère. 77 jours, 20 courriers à la préfecture d'Île-de-France, 16 au gouvernement et les interpellations de nombreux députés, une audience au tribunal administratif le 12 juin, dont le jugement sera rendu le 30 juin. Avant eux, 200 mineurs avaient dressé un camp en décembre 2022 sous les fenêtres du Conseil d'État, déplacés au bout de 5 jours dans des départements périphériques pour l'examen de leur situation. Le 20 juin 2023, journée mondiale des réfugiés. Le même jour, le gouvernement Borne d'Armanin met en œuvre ce qu'il sait faire, violence et dissolution. Arrachage des tentes, matraquage, insultes, arrestations, tout un arsenal de violences contre des enfants, des mineurs qui ne réclament que leur droit à être protégés. L'école, elle a été fermée, les mineurs dispersés, ils errent dans Paris. Indignons-nous. Ces mineurs sont des rescapés des prisons de Libye, des naufrages de Méditerranée. Nous leur devons reconnaissance de leur courage, hospitalité, éducation. Nous demandons pour les jeunes isolés de la rue Erlanger l'application de la présomption de minorité, la mise à l'abri immédiate et la prise en charge dans des conditions décentes. Un hébergement, un suivi éducatif et une scolarisation à la rentrée. Voilà. Et bien là aussi, la France,
oui,
la... compliquée.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une pétition ? Est-ce qu'il y a une pétition
Non, c'était, j'ai juste le communiqué de presse. Il y a une demande au niveau de faire parvenir au niveau des autorités. Donc effectivement, nous, on peut la faire parvenir, mais on l'a eu juste hier. Donc députés, maires, sénateurs, et leur demander d'intervenir. Mais manifestement, devant le Palais Royal, comme devant le Conseil d'État, à part les enlever, on ne sait pas faire autre chose. Et des mineurs, ce sont des jeunes, des enfants. Et reconnaître leur minorité, ça veut bien dire que ce ne sont pas des adultes. Donc il faut arrêter de les prendre pour cible, eux aussi.
Oui. Et tout laisse à penser d'ailleurs que la France sera de nouveau condamnée, comme elle l'a déjà été de nombreuses fois, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à ce qui vient de se passer.
En attendant, c'est des jeunes qui sont dans l'errance.
Le droit international est repris par le droit français, précise que des mineurs doivent être automatiquement protégés et non pas expulsés ou délogés, ou etc. C'est exactement l'inverse. Quelle que soit leur origine, leur nationalité, ils doivent être automatiquement protégés. Voilà, on va
et là aussi, le vocabulaire, il a travaillé aussi pour les faire transformer en futurs délinquants ou en personnes à risque.
Alors ben, c'est
ce sont ça. Que des jeunes,
c'est
des
ça.
Enfants.
C'est ça. Comment le proverbe, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, c'est ça. On va passer à la première pause musicale, on se retrouve juste après. Alors je veux juste vous préciser que cette première pause musicale, c'est quelqu'un qui est passé au festival Ça sonne à la porte au début du mois de juin, on y était. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'humour, donc c'est une chanson à écouter avec beaucoup de distance humoristique. Je vous laisse deviner.
Bon alors là les mecs, on va faire mon tube, hein, donc vous me le foirez pas, hein, toi là, Mamadou, là, comment il s'appelle, là, tu prends ton truc, là, tam-tam, hein, et tu frappes vraiment, d'accord? Allez, tu frappes fort! En Syrie, on bute les gosses, en même temps qu'on viole leur mère, mais j'en ai rien à foutre! Et la planète qui se réchauffe, même en hiver, j'en ai rien à foutre. Les cathos qui croient que leurs gosses, ils seront moins tarés que ceux des homos, j'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire, les Japonais, ils ont jamais eu de pont, j'en ai rien à foutre. Par contre, si Julien le perd, ça arrête question pour un champion, ça fait chier. La nouvelle Miss France, elle est pas si belle que ça cette année. Ça aussi, ça fait chier. La crise financière, des fois ça fait un peu peur, mais j'en ai rien à foutre. On a construit l'Union Européenne pour que ça devienne un pays de chômeurs, j'en ai rien à foutre. On a gagné les élections, mais on est déjà tous déçus, j'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde alors que tout le monde accuse les Juifs, j'en ai rien à foutre. Les All Blacks nous ont niqué parce que l'arbitre s'est fait acheter, ça fait chier. Le stérilé c'est vachement bien mais tous les 5 ans faut le changer, ça aussi ça fait chier. Le printemps arabe chez les Arabes, j'en ai rien à foutre. S'ils trouvent que la charia c'est moins pire que les dictateurs, j'en ai rien à foutre. L'ancien patron du FMI qui est devenu roi des partouzeurs, j'en ai rien à foutre. Les Américains sont de plus en plus gros, contrairement aux Tibétains, j'en ai rien à foutre. On a battu les Irakiens, alors pourquoi c'est si cher le gasoil, ça fait chier. Comme à chaque fois, tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale. Et celle-là, ça va chier.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Didier Super, donc on a vu au festival Ça sonne à la porte, et donc c'est quelqu'un de très engagé, mais qui a beaucoup un humour très très décalé, évidemment, comme vous avez pu le constater.
Et le titre ?
Le titre, c'était... bonne question, c'était...
Attention les papiers.
Non, je ne sais plus. Attends, j'ai pas noté le titre, ma pauvre Mina. Tu me poses une colle.
Oh, vous allez l'avoir à la prochaine pause musicale.
Ah si, ça s'appelle...
Didier, il est en train de chercher.
Ça y est, j'ai retrouvé. Ça s'appelle « Rien à foutre ».
Ah, voilà. Ah bah, voilà. Claire, au moins, ça.
Donc, moi, je vais...
Mais c'est toi.
Comme j'ai la parole, voilà, je vais continue. La garder. Et je vais vous parler d'un dossier qui est paru, qui est un peu long, mais je vais vous faire un très court résumé, qui est paru sur le site d'Amnesty. N'hésitez pas, même pendant les vacances, à aller consulter régulièrement ce site. Le site de,
et aller signer les pétitions.
D'Amnesty France, de signer les pétitions. Il y en a toujours un certain nombre en ligne. Peut-être participer aux actions et aux mobilisations. Même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Et donc, le site s'appelle amnesty.fr. C'est le site d'Amnesty France. Donc, surtout, c'est une adresse, comment dire, Internet à connaître par cœur. Donc, ce petit dossier concerne 10 choses, ça s'appelle 10 choses à savoir sur les violences sexuelles dans les conflits. C'est vrai qu'on en a entendu parler aussi avec le conflit en Ukraine, mais Amnesty documente ce problème depuis des années et des années, et sur bien d'autres pays aussi que l'Ukraine. Donc voilà, je vais vous lire simplement le début. « Les violences sexuelles sont monnaie courante dans les conflits. Pourtant, elles restent trop souvent ignorées ou minimisées et demeurent largement impunies. Pendant longtemps, dans les conflits armés, le viol et les autres formes de violences sexuelles commises ont été considérées comme inévitables. De simples dommages collatéraux, entre guillemets, ou actes isolés, ou le lot malchanceux de celles et ceux qui croisent la route d'hommes en armes, aveuglés par leurs pulsions. » Tout ça avec beaucoup de guillemets, évidemment. En réalité, dans de nombreux cas, le viol et les autres formes de violences sexuelles sont utilisées comme une véritable arme de guerre, de manière massive, systématique, et pour infliger un préjudice physique et psychologique aux personnes ciblées, en particulier au sein de populations civiles. Donc Amnesty liste 10 choses à savoir par rapport à ce sujet. Bon, je ne vais pas, encore une fois, vous lister les 10, ce serait trop long, et je vous renvoie encore une fois à cet article pour prendre connaissance de son contenu complet. Mais donc Amnesty commence par définir ce que c'est que les violences sexuelles. Elle renvoie à tout acte de nature sexuelle non consenti, pratiqué sur une tierce personne en ayant recours à la force et ou dans des circonstances coercitives. Quelles sont les différentes formes de violences sexuelles dans les conflits? Bien qu'il n'existe pas officiellement de liste exhaustive, on peut citer les principales, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée. Ces violences peuvent servir à instiller de la peur au sein des communautés, à humilier, punir, à prendre le contrôle, à forcer à fuir, à forcer à obtenir des informations ou des confessions. Tout le monde peut potentiellement être la cible de violences sexuelles, quel que soit son genre, son identité, son orientation sexuelle, son âge ou son milieu économique et social. Mais les femmes et les filles sont les principales cibles des violences sexuelles dans les conflits à travers le monde. Mais il y a aussi, effectivement, Amnesty précise qu'il y a des violences sexuelles contre les hommes et les garçons, longtemps restées taboues ou ignorées, existent bel et bien, et il y a plusieurs cas qui ont été documentés, dont en République démocratique du Congo. Là encore, je vous renvoie à l'article. Certains groupes de personnes peuvent être ciblés plus fréquemment que d'autres par des actes de violences sexuelles, comme les personnes déplacées, réfugiées, les personnes associées à certains groupes armés, ethnies, religions ou partis politiques. Quels sont les auteurs de ces violences? Les viols et autres formes de violences sexuelles peuvent être perpétrés par l'ensemble des parties en conflit, parfois avec une ampleur et un modus operandi, donc une méthode opératoire, différent. Les auteurs peuvent être multiples, membres des forces armées régulières, des membres des forces de police, des groupes armés rebelles, des milices, etc. Quelles sont les conséquences de ce genre de violences? Les conséquences physiques dans un premier temps, bien évidemment. La brutalité des violences sexuelles entraîne souvent des blessures physiques graves qui nécessitent des traitements médicaux complexes sur le long terme. Traitements médicaux qui, bien souvent, effectivement, ne sont pas donnés ou très mal. Des conséquences psychologiques aussi pour les victimes de violences sexuelles, ces conséquences sont nombreuses. Dépression, syndrome de stress post-traumatique, insomnie, anxiété, sentiment intense de terreur, de rage, de honte, perte de l'estime de soi, sentiment de culpabilité, perte de mémoire, cauchemar et flashback, des visions de retour en arrière, de l'agression pendant la journée. Certaines ont également peur d'être rejetées par leur famille ou leur communauté. Et ça, c'est très fréquent, effectivement. C'est ce qu'on appelle aussi la double peine. Donc, effectivement, bon, l'article continue sur différents sujets, mais il rappelle un peu plus loin qu'en fait, le traité sur le commerce des armes, qui a été signé par la France et définitivement adopté là, au début de l'année par l'ONU, puisque je crois qu'il fallait une signature de 40 ou 50 pays au niveau international, et on les a atteints. Donc c'est un traité qui, normalement, s'applique à l'ensemble des pays du monde. Donc le traité sur le commerce des armes précise que l'évaluation des risques d'actes graves de violence fondés sur le sexe et d'actes graves de violence contre les femmes et les enfants, qui est interdite par ce traité, est une avancée importante dans la reconnaissance officielle des liens qui existent entre les violences liées au genre et le commerce international des armes. Là aussi, je vous renvoie à l'article pour en lire davantage. Donc, le travail d'Amnesty aussi, c'est pour ça qu'on en parle, et qui est important, c'est qu'on documente, Amnesty au niveau international, documente de plus en plus de cas de violences sexuelles dans les conflits armés, alors que ce sujet est longtemps resté sous-documenté. Et enfin, le dernier chapitre, là aussi je vous résume beaucoup, hein, le dernier chapitre aborde le sujet des crimes. Est-ce que ces crimes commis sont jugés et est-ce que les victimes obtiennent réparation? Effectivement, c'est un travail sur lequel aussi Amnesty fait pression. À l'heure actuelle, effectivement, c'est encore rarement le cas. Mais alors qu'effectivement, les violences sexuelles constituent une violation du droit international et de pas mal de textes qui ont été signés, à part le traité sur le commerce des armes, et que donc la communauté internationale, précise Amnesty, doit prendre des mesures pour prévenir et pour poursuivre pénalement le viol et autres formes de violences sexuelles, et que les différents pays ont aussi l'obligation d'enquêter et de poursuivre les auteurs de ces crimes. Voilà. Donc l'article se conclut en disant que notre combat consiste à enquêter, alerter et agir, enquêter sur les réalités de ces violences dans les conflits armés, alerter la population comme ici à la radio, mais dans sous toutes ses formes, et agir en faisant pression sur les instances internationales et l'ONU pour que ces crimes ne restent pas impunis. Voilà, donc je vous renvoie à ce dossier hein, qui fait plusieurs pages avec plein d'exemples et qui s'appelle « 10 choses à savoir sur les violences sexuelles dans les conflits ».
Voilà, c'est sur la page d'accueil du site Amnesty actuellement.
Actuellement, oui,
tout à fait. Cliquez et vous allez pouvoir tout relire et avoir les autres infos.
Tout à fait. Et pendant qu'on parle de droits des femmes, d'ailleurs, ouais, ça fait un enchaînement, c'est Edith qui va vous parler de Pologne et de droits de femmes.
Ben, cette semaine, la semaine dernière, c'était le moment où s'organisait dans les pays la marche des fiertés. Et là, Amnesty a pointé un pays en particulier, la Pologne, et trois militantes. Alors, je vais vous dire une fois leur nom, mais parce que le polonais, ce n'est pas forcément ma deuxième langue. Donc, Elżbieta
Potsleza. Pourtant, tu as pris des cours de polonais, non?
Ben, voilà. Je vais dire tout parce que je pense que c'est important aussi de donner l'identité des genres. Donc, Anna Prus et Joanna Gzira Iskandar. Alors, ce sont trois militantes. Alors, qui sont-elles? Ce sont des militantes LGBT qui sont poursuivies en justice pour des actions pacifiques depuis 2019. Ces trois militantes qui défendent publiquement les droits humains en Pologne et notamment les droits des personnes LGBT, elles luttent contre la haine et la discrimination depuis de nombreuses années, ainsi que pour une Pologne plus juste et plus égalitaire. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? En avril 2019, elles avaient distribué des affiches montrant la Vierge Marie auréolée des couleurs de l'arc-en-ciel. Un acte pacifique pour protester contre l'action discriminante d'une église locale contre la communauté LGBT+. Une boîte mise à disposition pour déposer des papiers exprimant les péchés LGBT. Joachim Brunzinski, alors ministre de l'Intérieur, avait dénoncé un acte de barbarie culturelle de la part des militantes. Donc, en mars 2021, Elżbieta, Anna et Joanna ont été acquittées des charges d'outrage aux convictions religieuses. Et les autorités ont alors fait appel de la décision. En janvier 2022, Elżbieta, Anna et Joanna ont été de nouveau relaxées à l'issue d'un procès de plusieurs mois. Et là, le procureur a fait appel de cette deuxième relaxe. Alors, qu'est-ce que risquent ces trois militantes aujourd'hui? Depuis l'appel des autorités polonaises, Elżbieta, Anna et Joanna attendent la décision de la Cour de cassation. Elles encourent toujours jusqu'à 2 ans de prison simplement pour avoir défendu les droits des personnes LGBT+, dans un climat de haine et de discrimination en Pologne. Et cette nouvelle procédure d'appel contre les trois militantes montre la détermination des autorités polonaises à utiliser le système judiciaire pour harceler ceux et celles qui défendent le droit des personnes LGBT+, dans leur pays. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est une mobilisation internationale pour soutenir les trois militantes. Détenir, créer ou distribuer des affiches comme celles de ces trois activistes ont produites n'est pas une infraction. Cela relève de la liberté d'expression, qui est un droit humain fondamental. C'est ce qu'ont revendiqué haut et fort des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées à nos côtés, dit Elisabeth et Anna. 270 000 personnes ont signé notre pétition pour exhorter le procureur général de Pologne à abandonner les charges totalement infondées retenues contre elle. Et cette solidarité a donné à Elżbieta, Anna et Johanna la force de continuer à lutter pour leurs droits. Donc c'est Johanna qui dit « Au cours du procès, donc en 2022, nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des personnes LGBT+. C'était extraordinaire. Je me souviens avoir été assise pendant 8 heures lors du premier procès et pendant tout ce temps, en hiver, des gens se tenaient devant le tribunal en chantant et en criant qu'ils étaient venus pour nous. » Alors, en Pologne, actuellement, les harcèlements et l'intimidation, c'est le quotidien des défenseurs des droits des personnes LGBT+. À l'instar d'Elzbietia, Anna et Johanna, les défenseurs et défenseuses des droits des personnes LGBT+, sont harcelés, intimidés par des autorités polonaises au quotidien. En ayant recours à l'appareil de l'État dans son ensemble et notamment au système judiciaire, les autorités polonaises tentent de les dissuader de continuer à militer et à dénoncer des discriminations contre les personnes LGBT+. Je savais que j'allais fourcher à un moment.
LGBT, c'est ça.
Ouais, voilà. Enfin, vous avez tous suivi quand
oui,
même.
Oui, oui.
Et alors, par exemple, Amnesty qui a fait l'enquête, c'est les militants disent qu'ils nous traitent comme des criminels. Et Amnesty a constaté une restriction importante de l'espace d'expression. Les autorités n'ont cessé d'ajouter des démarches administratives, des interdictions préventives, des restrictions supplémentaires pour rendre de plus en plus compliquée l'organisation des marches des fiertés. Et lorsque ces marches ont lieu, elles n'ont parfois pas de protection policière suffisante pour protéger les manifestants et les manifestantes de certains groupes violents. Et lors de certaines marches, c'est la police elle-même qui réprime les manifestants pacifiques. Donc là, pareil, à l'action, sur le site d'Amnesty, vous avez une pétition. Vous pouvez encore la signer pour rejoindre tous les Polonais qui soutiennent ces trois militantes.
Oui, tout à fait. Et c'est un combat aussi, le droit des LGBT, qui est fondamental, parce que dans plein de pays, il n'y a pas qu'en Pologne, dans plein de pays dans le monde, effectivement,
ces droits-là, aussi, l'autre
ces droits-là
sont
de plus en plus remis en cause.
Je crois que c'est l'Ouganda...
Et ça m'a fait penser, alors je vais faire une toute petite parenthèse encore une fois.
Petite Mina en surveille.
Ça va prendre 30 secondes. J'étais...
5.
Ça, c'est une forme d'oppression, Mina, de compter 6. Comme ça.
Non, on surveille.
Donc, j'étais à l'Assemblée Générale d'Amnesty International à Pau ce week-end.
Il s'est promené, Didier.
Voilà, oui, enfin, bref. Et donc, il a été question dans une table ronde à laquelle j'ai assisté sur les campagnes à risque, entre guillemets, sur effectivement la dégradation des libertés publiques, qui fait que partout dans le monde, y compris chez nous, on prend de plus en plus de risques quand on intervient ou quand on milite. Et quelqu'un du planning familial français est intervenu pour expliquer qu'en fait, le planning familial, même en France maintenant, c'est un mouvement mondial, le planning familial, pour le droit à l'avortement et pour le droit des homosexuels, enfin, etc., etc., mais pas que. Et même en France, effectivement, le planning familial commence à recevoir des lettres de menaces de différents groupes politiques, très facile à situer sur l'échiquier politique. Et donc... des menaces par rapport à ça, et ils ont eu également dans deux de leurs permanences, je ne sais plus les villes, mais dans deux de leurs permanences très récemment, des agressions, du matériel informatique cassé et par des hommes casqués avec des matraques, enfin, etc., etc., et des menaces physiques. Donc effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de lutter pour les droits des LGBT, y compris en France et y compris avec le planning familial. Voilà. Juste avant la pause musicale, une toute petite information, et ça va être très court là aussi. On rappelle que le vendredi 16 juin dernier, le président de la République en France, donc M. Macron, a reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite à l'Élysée. Il s'appelle Mohamed Ben Salman, enfin son nom abrégé c'est MBS. Et qu'Amnesty International, à cette occasion, a demandé solennellement au président de la République donc, d'intervenir auprès de MBS pour exiger de l'Arabie qu'elle suspende l'exécution de 7 jeunes hommes condamnés pour des faits commis alors qu'ils étaient mineurs. Donc on rappelle qu'en droit international, la condamnation à mort, de quel que soit le motif, de personnes qui étaient mineures au moment des faits est tout à fait illégale. Donc Amnesty, effectivement, a fait pression auprès de M. Macron pour qu'il rappelle MBS à ses engagements. Et je vous en parle parce qu'en fait, là aussi je vous raccourcis beaucoup le communiqué, mais je vous en parle parce qu'en fait il s'avère que parallèlement à ces condamnations, donc qui ont été confirmées là au mois de mai dernier, les différentes instances officielles d'Arabie Saoudite ont certifié que maintenant des dispositions légales avaient été prises pour qu'il n'y ait plus d'exécution et de condamnation à mort de personnes qui étaient mineures au moment des fêtes.
Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Parce qu'ayant fait la peine de mort il n'y a pas longtemps, le nombre de peines de mort en Arabie, c'était quand même assez important.
Oui,
quoi.
Alors justement, et c'est là-dessus, donc, bon, c'est effectivement là-dessus.
On ne doit pas être sur le même pays.
Qu'Amnesty s'insurge. Bon, après, tout l'article, mais je vous en ferai grâce, explique que ces personnes ont été condamnées à l'issue de procès iniques, en fait, etc., pour des motifs. Ils n'ont pas commis de crime de sang, pour des motifs qui n'avaient rien à voir, mais bref, etc., etc. Aussi des motifs religieux, puisqu'ils appartiennent à la minorité chiite, bref, etc., etc. Là aussi, lisez l'article sur le site d'Amnesty, n'hésitez pas. Et donc, l'article se termine effectivement en précisant que, dans une lettre envoyée à Amnesty International, la Commission saoudienne des droits humains a indiqué que 196 personnes avaient été exécutées en Arabie Saoudite en 2022. Et Amnesty précise que ce chiffre est largement supérieur au nombre d'exécutions déclarées à l'agence de presse saoudienne et enregistrées par Amnesty en 2022, qui était de 148 exécutions. C'est-à-dire que sur le rapport qui est paru au mois de mars, le rapport mondial, Amnesty mentionne 148 exécutions. C'est les chiffres qui avaient été donnés par l'État d'Arabie Saoudite, qui maintenant reconnaît qu'en fait, elle a exécuté 196 personnes. Voilà. Donc, l'Arabie Saoudite est toujours un non-exemple en termes de respect des droits humains et d'abolition de la peine de mort. C'est le moins qu'on puisse dire.
Merci pour cette information importante. Maintenant,
la musique, oui.
Pause musicale.
On ignore par contre la réponse de M. Emmanuel Macron. Il n'a pas répondu au communiqué d'Amnesty.
Pause musicale. Votre temps est écoulé. I'm getting sick.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. On vient d'écouter là aussi un groupe qui est passé en concert au festival Ça sonne à la porte, où on était aussi. Et le groupe s'appelle Denver, c'est un groupe local, et même s'il chante en anglais. Et le morceau s'appelle, j'ai noté, Naughty Ghost.
Bien, aucune hésitation de ta part.
C'est ça, je ne vous traduirai pas le titre. Je peux, mais je ne veux pas le faire.
Bon, à chacun de regarder dans son dictionnaire.
C'est ça.
Ou de réécouter l'émission pour bon. Bien entendre la prononciation toujours très bonne de Didier.
Et je crois que, Didier, tu avais d'autres choses,
d'autres informations à nous donner. Oui, moi j'ai aussi trouvé des informations sur le sort des Afghans au Pakistan. Et c'est vrai que c'est quelque chose, alors on va dire comme Mina, c'est sur le site belge. Et alors Amnesty, c'est international, mais c'est vrai que chaque pays a travaille sur des pays plus en particulier, donc peut-être que nous, on ne travaille pas trop en France sur le Pakistan. Et cette info, je ne la connaissais pas. Donc on peut imaginer, enfin, on sait la situation de l'Afghanistan et le besoin de partir, de se réfugier des Afghans. Donc le Pakistan, c'est pas loin. Et beaucoup d'Afghans sont arrivés dans ce pays. Mais là, les choses ne se passent pas aussi simplement que cela. Et Dinushika Dissanayake, la directrice régionale adjointe pour l'Asie du Sud d'Amnesty International résume un peu la situation en disant qu'il est très préoccupant de constater que la situation des réfugiés et des réfugiées femmes afghans au Pakistan ne reçoit pas l'attention nécessaire au niveau international. Effectivement, ce n'est pas relayé dans les médias. Comme ils ne peuvent pas retourner dans leur pays ou rester de façon permanente au Pakistan, ils se retrouvent dans une situation sans issue. Et cette situation ambiguë au regard de la loi et la difficile procédure d'asile ou de relocalisation dans un pays tiers les rendent d'autant plus vulnérables. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les démarches administratives, les enregistrements, les choses comme ça sont très très lentes. Et le Pakistan ne veut pas qu'il reste, mais n'a pas de possibilité pour trouver les liens avec les pays tiers, parce qu'il y a quand même des pays qui avaient dit nous on est d'accord pour les recevoir, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Mais comme il n'y a pas de visa en Afghanistan, et que, puisqu'il n'y a plus de représentation diplomatique, et que la procédure de délivrance au Pakistan demeure compliquée et longue, il y a une attente de plusieurs mois. Donc ça se trouve que les Afghans qui arrivent, qui avaient des papiers, les papiers deviennent caducs. Et ils se trouvent dans une situation de non-droit, quoi. Et aussi bien l'HR ne fait pas forcément son travail à ce niveau-là. Et il se passe, donc Amnesty a refait une enquête là il y a peu de temps, donc je vais vous lire un des témoignages. Donc Hussein, un ancien employé du ministère de l'Intérieur en Afghanistan, qui a fui au Pakistan avec sa famille en 2022, après avoir échappé de peu aux talibans à Kaboul, a été récemment placé en détention après une vague d'arrestations et a été harcelé par les autorités pakistanaises. En février 2023, la police a effectué une descente à son domicile à Islamabad et à celui de plusieurs autres familles afghanes dans ce quartier. Il dit avoir été menotté, emmené vers 22h au poste de police. Il a été interrogé au sujet de sa situation migratoire, de son emploi, de ses fréquentations. Et une vingtaine d'autres afghans ont été également arrêtés et emmenés au poste de police. Ils ont pris nos passeports et nos portefeuilles, nous ont fouillés à plusieurs reprises. Ils ont même arrêté des personnes qui avaient, eux, un visa en cours de validité qui séjournaient légalement dans le pays, dit Hussein. Le lendemain matin, Hussein a été relâché après avoir payé une amende d'un montant de 30 000 roupies, mais la police a refusé de lui fournir quelques documents que ce soit indiquant le motif de son placement en détention et ne lui a pas donné un reçu pour le paiement de cette amende. Et cela, ce n'est pas le seul témoignage, il y en a eu plusieurs, quoi. Et ce cas ne présente qu'une fraction d'un grand nombre d'Afghans qui sont venus chercher refuge au Pakistan et qui veulent reconstruire leur vie dans ce pays ou être réinstallés dans un pays tiers via le Pakistan. Les menaces et le harcèlement qu'ils subissent sont amplifiés du fait des longs délais d'attente pour la procédure de relocalisation dans un pays tiers et de l'expiration de leur visa, car ils ne se trouvent dans ce fait en situation de vulnérabilité sur le plan juridique. Donc ce qui se passe, alors je ne vous parle pas, la situation est encore plus difficile pour les femmes et les filles, même au Pakistan. On leur fait payer des pots de vin, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de papier. Et donc, je cherche ma dernière page, voilà, parce qu'il y a aussi l'ami... D'Amnesty, là, dit
d'Inusika Dizaniataki qui résume en disant « Les Afghans et les Afghanes, demandeurs d'asile, qui ont d'abord été punis par les talibans, sont à présent confrontés à de fastidieuses procédures d'enregistrement et de demande d'asile, et la communauté internationale n'a pas fourni de protection efficace aux personnes fuyant la persécution en Afghanistan, contrairement aux engagements qu'elle avait initialement pris. Et ces Afghans ont besoin de toute urgence d'une aide accrue. Et Amnesty demande aussi au Haut Commissariat des Nations Unies de hâter l'enregistrement et l'examen des dossiers de façon que cette situation dure le moins longtemps possible, car le gouvernement pakistanais ne va pas cesser ses vexations, ses amendes, et tout cela est vraiment très triste pour des Afghans qui ont vraiment déjà échappé aux talibans. Voilà, donc article belge, si vous voulez avoir l'article en premier avec tous les témoignages.
Voilà, sur amnesty.be, c'est ça ?
Oh, oui. J'ai un geste large parce que je regardais l'heure là, j'en montre à Mina que j'étais à l'heure.
Il y a Edith qui tape violemment le micro, qui ne lui a rien fait.
Amina.
Et oui, pour la dernière rubrique culturelle engagée de l'émission de radio Amnesty Évreux. Car effectivement, c'est ma dernière émission.
On est triste.
Alors, en fait, pour ce soir, je vous ai pris 4 de beaucoup de livres incontournables que je pense qu'il faut avoir lu dans sa vie ou vu de films à avoir vu. J'en ai sélectionné que 4 pour pas trop...
The best.
The best. Si t'as pas lu ça ou si t'as pas vu ça...
On n'est pas des membres d'Amnesty. Aïe.
Voilà. Moi, ça m'a touchée. Après, vous verrez bien. On n'a pas tous la même sensibilité. Alors, donc, c'est des livres et des films dont je vous ai déjà parlé. Donc, on va commencer par Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, qui est sorti en 2022 aux éditions du Seuil. Le petit résumé. Cela fait 4 ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses parents qui rejoignaient l'État islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains. Et donc on va voir, au fur et à mesure, tout le camp, tout l'univers de l'engrenage de Daesh et tout ça. Mais je n'ai rien dit, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Non mais je vous assure, au contraire, lisez-le, très beau. Et en plus Rachid Benzine a écrit beaucoup autour de l'islam, de tous les 4 sociétés, l'effet sociétal autour de l'État islamique ou d'autres problèmes sur les quartiers, ainsi de suite. Ensuite, alors je vous explique. C'était en DVD avant, dans vos meilleures bibliothèques. Maintenant, c'est plus qu'en vidéo à la demande, si vous avez une carte de médiathèque. Et je pense que vous pouvez le trouver. Mais peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est un très vieux film. Ça s'appelle Le destin de Youssef Chahine. Alors, désirant amadouer les intégristes, le calife El Mansou ordonne l'autodafé de toutes les œuvres du philosophe andalou Averroès, dont les concepts influenceront non seulement l'âge des Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples d'Averroès et ses proches décident d'en faire des copies et de les passer à travers les frontières. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Comment on voit des gens qui vont sauver la pensée humaine, le peuple humain, en conservant des livres. Et par contre, c'est un truc horrible, c'est de voir brûler des livres, toute la connaissance. C'est même pas le livre en soi, c'est vraiment la connaissance. Et j'ai eu une petite angoisse ce week-end, si vous voulez tout savoir, à Sotteville. Il y avait un spectacle, il y avait Vivacité. Mmh. Et il y avait un spectacle où il y avait des flammes, tout ça. Et il y a un monsieur qui passait d'arbre en arbre pour défendre la culture, dire que c'est important, les livres et tout. Mais moi, juste le fait de voir des flammes, de voir une colonne fictive en papier, une bibliothèque, j'ai dit « Ah non, je ne veux pas voir la suite. S'il brûle les livres, je ne vais pas m'en remettre. S'il brûle la bibliothèque, s'il brûle la pensée humaine, c'est pas possible. Je suis partie tout de suite juste parce que j'avais vu le destin. » Donc, un de mes incontournables aussi. Peut-être vous l'avez déjà vu. Troisième, un dessinateur journaliste. « Petit manuel du parfait réfugié politique » de Manan Yestani aux éditions « Ça et là ». arrivé en France au début de l'année 2011, Mana et son épouse entament rapidement les démarches de demande d'asile. L'auteur décrit, entre autobiographie, autofiction et dessin de presse, un an et demi de tracas pour obtenir le statut de réfugié politique, le système administratif infernal, les Parisiens, etc. Donc ça aussi, un incontournable. Et si vous l'avez déjà acheté ou si vous voulez l'acheter, normalement, vous avez la carte de séjour de Mana Nayestani en plus. Mais à voir, parce que c'est vraiment la réalité du terrain sur le problème des OQTF, des papiers, de tout ça. Voilà. Et le dernier, Une colère noire, lettre à mon fils, de Ta-Nehisi Coates, aux éditions J'ai lu. Dans cet ouvrage, le journaliste américain montre qu'en dépit des luttes pour les droits civiques de la production d'une culture avec ses icônes, Frédéric Douglass, Billie Holiday, Martin Luther King, et de l'élection de Barack Obama, les violences contre les Noirs n'ont jamais cessé aux États-Unis. Voilà. Donc, continuons le combat. Voilà mes quatre incontournables. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à écrire à l'adresse d'Evreux.
Oui.
Amnesty.
Non, c'est pas ça.
C'est quoi,
l'adresse, Evreux? L'adresse mail du groupe, c'est evreux@amnestyfrance.fr. Evreux@amnestyfrance.fr.
Tu Amnesty nous écriras, avec un Y. Mina.
Non,
oui,
je...
Mina.
De ta grande chapelle peut-être.
Mina, oh, ouais. Mina est amenée à quitter la région, donc oui. Voilà. Elle
et donc j'arrête tout de suite mon activité militante.
Non.
La radio.
On applaudit
non.
Ou on pleure.
Si, si,
on
déjà,
te croit
je déserte,
pas.
Je déserte les réunions. Donc maintenant
on
que c'est ma dernière émission.
Non, mais tu
voilà.
Restes,
donc écrivez pour demander le retour de Mina.
Non, non, j'ai envie d'être avec mon mari. Laissez-moi tranquille. C'est bien d'être militant, mais il faut savoir se préserver. Ne l'oubliez pas.
Par contre, tu peux nous redonner le titre de tes quatre chefs-d'œuvre rapidement.
Une colère noire, lettre à mon fils, de Ta-Nehisi Coates. Rachid Benzine a écrit Voyage au bout de l'enfance, le film Le destin de Youssef Chahine et Petit manuel du parfait réfugié politique de Mana Nayestani. Et pour les actualités locales,
oui.
Car c'est bientôt la fin de l'émission, chers oui. amis. Donc dimanche, la foire aux livres.
Alors dimanche, le
sur
de l'année.
L'espace Saint-Léger, le faubourg Saint-Léger. Vous pouvez venir dès 7h30 aider à
l'ouverture installer, est à 9h30.
Et à 18h pour aider à ranger. Et vous pouvez venir aussi acheter des livres.
Oui, bien
et
sûr.
Et alors, vous pouvez surtout venir faire votre bibliothèque de l'été, Mina.
C'est ça, acheter des
voilà.
livres.
Enfin, c'est à des prix vraiment défiant toute concurrence oui. pour les grands. Pour les petits,
bien sûr.
Il y a vraiment énormément de livres. Et ça, ça vous permet aussi de financer votre groupe local voilà. d'Evreux.
Et
sûr.
L'émission de rentrée, c'est le 12 septembre.
C'est ça.
Et nous vous souhaitons un très bel été.
Je sens
Didier, il sent qu'il ne va pas avoir la parole. Mina, c'est ma dernière émission. Elle ne lâche
Mina.
Pas le micro.
C'est ça.
Est-ce qu'on va rendre l'antenne?
Je suis interdit de...
Voilà.
Mais non, mais on va applaudir
je
Mina.
Je suis interdit de micro.
Oh, j'ai rien fait. J'ai juste...
Oh.
Moi, j'ai participé à ce que la condition humaine soit plus belle. Voilà.
Oui, mais c'est...
C'est super
normal.
Bien choisi.
Mais c'est, ouais, mais c'est, c'est fondamentalement important. Et je ne te crois pas quand tu dis que tu ne resteras pas militante, bien sûr que tu le resteras.
Non, à Évreux, je ne peux pas.
Non, elle ne va pas faire...
C'est ça que j'ai dit.
Ailleurs, on peut militer de partout.
Oui,
on peut
oui.
militer de partout.
Après, tu peux nous envoyer des petits sujets sur la critique des livres.
C'est ça.
Parce que
t'as
ça, la radio, elle sait lire des choses enregistrées.
Tout à fait.
C'est ça. On rappelle aussi que nos podcasts des émissions sont sur le site de Principe Actif. Donc, n'hésitez pas à les réécouter. Donc, Foire aux livres dimanche, on le rappellera quand même une dernière fois. Foire aux livres dimanche.
Foire aux livres, cherchez.
Ouverture au public, 9h30,
17h30. Il y a des grandes banderoles que Didier a mis hier soir.
C'est ça, il y a des affiches. Et donc, ça nous permet, comme disait Edith, aussi de nous financer.
Ah
puisque
ben ça, ouais.
puisque Amnesty fonctionne sans aucune subvention
voilà,
de
ouais.
personne.
Au revoir.
Voilà. Oui, Mina, je lance le générique.
Passez un bel été.
On laisse la place au laboratoire. Et on vous souhaite un bel été à tous. Bonnes vacances.
Bel été.
Et comme dirait De Chavannes, sortez couverts.
C'est ça.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.